Margot Matin. Margot Matin. Margot Matin. Margot Matin.
Ce matin, je vous raconte une petite histoire à la première personne pour changer. Comme beaucoup de Landaises et Landais de ma génération, j'aspirais à quitter le territoire le plus vite possible. J'ai pourtant passé une enfance très heureuse, accompagnée par ma petite sœur, entourée de cousins et cousines par dizaines, d'oncles et de tantes, et de parents et grands-parents aimants. Je suis née à Mont-de-Marsan et j'y ai grandi sans jamais trop en partir. Je n'ai pas vraiment pris de grands risques dans ma scolarité non plus, Montaut-Montoise, du début à la fin, et puis Bordeaux pour la fac, classique. Après une petite partie de mes études et une saison dans les Alpes, j'ai appris que Radio MDM cherchait quelqu'un. Je veux être journaliste depuis que je suis au collège. Je n'ai pas hésité longtemps. Entretien et tout le tintouin, et puis bingo, où je suis depuis 2 ans sur le terrain et au micro. J'ai toujours envie d'aller voir ailleurs, mais pas tout de suite. J'apprends à découvrir ma ville, mon département, avec un œil nouveau. À m'émerveiller face à tant de richesses que j'avais ignorées pendant toutes ces années. Les actions et les gens, les associations et les événements. Les Landes fourmillent d'initiatives et ses habitants ne sont qu'idées. Je pense à des endroits et aux personnes qui sont derrière. Il y a la librairie Caractère à Mont-de-Marsan, le Café Musique, toujours à Mont-de-Marsan, l'usine à gaz sur Saint-Sevé, et pour revenir à l'agglo montoise, le Théâtre de Gascogne. Bien d'autres lieux et associations se bougent et proposent des choses incroyables, mais être exhaustive ici à ce propos serait un poil redondant et ennuyant, si vous voulez mon avis. Tout ça pour vous dire que récemment, grâce au fabuleux métier que j'exerce et aux forces vives de notre territoire, j'ai eu l'opportunité de faire des rencontres, de mener des entretiens auxquels je n'aurais jamais pensé ne serait-ce qu'assister. Les dernières en date, Simon Abkarian et Ryan Ascaride. MDM. Si vous vous renseignez brièvement sur Simon Abkarian, vous apprendrez très vite qu'il est d'origine arménienne et qu'après avoir voyagé pour diverses raisons, il a quasiment commencé le théâtre chez la grande Ariane Nouchkine, fondatrice du Théâtre du Soleil, monument du théâtre français installé à la Cartoucherie à Vincennes, en région parisienne. Il vole depuis de ses propres ailes. Toujours acteur, il a ajouté de nouvelles cordes à son arc en écrivant et mettant en scène. C'est donc pour présenter un diptyque, par ailleurs, issu d'un triptyque, que celui qui incarnait le colonel Amanoula s'est installé avec la compagnie des Cinq Roues au Théâtre de Gascogne. D'une Ariane à l'autre, comme il l'a si bien dit, Simon Abkarian travaille aujourd'hui avec Ariane Ascaride, cette actrice et comédienne de génie à la carrière époustouflante que l'on voit très régulièrement à l'affiche des films de Robert Guédiguian, son réalisateur de Marie. Ils sont arrivés dimanche dernier et mercredi, nous les avons rencontrés.
Et d'une Ariane, on est passé à l'autre.
C'est ça.
Parce que ce qu'elle fait, Ariane, dans le spectacle, c'est...
Oh.
Non, mais c'est moi qui l'ai écrit, je sais de quoi je parle. Non, mais là, elle a de la mâchoire, du corps et... Non, voilà, il y a, pour dire, pour raconter l'histoire, enfin, avec l'histoire, mais c'est un corps de femme qu'il y a dans le spectacle. Il y a 7 femmes, 8 femmes sur le plateau. Et c'est vrai que la figure centrale... de cette pièce-là, c'est la mère, c'est Nouritsa, que fait Ariane. Et en plus, il y avait un troisième volet qu'on n'a pas pu monter, peut-être un jour pour montrer, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est 7 heures de spectacle, là, 7h30 de spectacle. C'est un marathon pour elle, mais couru comme si c'était un sprint. Donc autour de ça, voilà, se construit, autour de cette figure-là, se construit tous les personnages, vous verrez, tous les personnages masculins, ils sont très... pas... Ils ne sont pas centraux comme on nous a appris depuis 3000 ans en disant que c'est les garçons qui sont le centre du monde et que les femmes doivent tourner autour. Là, c'est le contraire qui se passe.
C'est une bonne nouvelle.
C'est les hommes qui tournent autour des femmes.
Et, voilà. Et c'est une véritable écriture, ce qui devient assez rare dans le théâtre contemporain aujourd'hui. C'est une véritable écriture très particulière et qui je pense que la plupart du temps, les spectateurs prennent 10 minutes à choper le truc, mais après, ils l'attrapent. Et ça ne pose plus aucun problème. C'est-à-dire comment, à l'intérieur de cette écriture, ce qui est très beau, c'est comment des gens d'un quartier, puisque ça se passe dans un quartier, il arrive avec son écriture à remettre en place la grande dignité de la langue populaire. Et ça, c'est assez rare. Même, je dirais qu'aujourd'hui, je connais peu de gens qui peuvent faire ça au théâtre, quoi. Voilà. et c'est sa manière à lui de raconter le monde. Et c'est très, pour nous aussi, c'est un exercice. Au départ, ça a été un exercice où on avait beaucoup de mal au départ à attraper le truc pour arriver à le rendre complètement évident. Et je crois que ça, on y est bien arrivé maintenant. Et c'est du coup très excitant d'avoir une véritable langue à parler. C'est pas oui, alors aujourd'hui je suis sortie. Non, c'est pas du tout comme ça. Ça parle pas du tout comme ça. Et c'est drôle. Et comme disait Antoine, ça peut être très drôle, surtout dans le dernier jour du jeûne, et moi aussi dans l'envol. Et c'est surtout pour moi ce qui m'intéressait, c'était effectivement qu'il était arrivé à trouver la parole juste d'un monde populaire. Et ça, c'est... En tout cas, au théâtre, ça se fait peu.
Est-ce que, du coup, le rôle d'Ariane, vous l'avez dit, il est central. Vous l'avez écrit pour Ariane, en pensant à elle directement pour ce rôle ?
J'en pourquoi... ai de la chance, hein.
Et pourquoi ?
Bah, c'est toujours... C'est comme un tailleur. Quand le tailleur sait pour qui il fait l'habit, ben, il a les côtes, il a le corps, enfin... Il n'y a pas d'ajustement majeur à faire après. Quand vous savez pour qui vous écrivez et quand vous avez en face de vous une grande actrice, eh ben, ça sans les talons aiguilles, vous savez ce que vous avez écrit, tout d'un coup, vous avez lui donné le texte, ça va, voilà, on va travailler, puis tout d'un coup, elle va dire, ah, là, non, je ne pense pas que ce mot doit être là, puis tu vois. Vous allez lui faire confiance parce que vous savez très bien que c'est pas du confort qu'elle cherche, c'est de la justesse. Et je pense que toutes les actrices qui sont dans ce spectacle et les acteurs qui sont au spectacle sont dans cette dynamique-là, dans cette perspective-là, à savoir trouver l'endroit juste. Parce que la langue du théâtre, c'est pas une langue. C'est une langue étrangère, c'est pas une langue quelconque. C'est pas, moi, j'aime pas le prosaïque au théâtre, ça me fatigue, j'aime pas le réalisme. Et quand on regarde la télévision et même les films aujourd'hui, le langage devient suffisamment binaire et plat pour pas se sentir dans l'obligation, voire la noble obligation de rétablir la langue, le langage, quoi. Parce que par le langage, on rétablit la pensée, par la pensée, on rétablit la vision. Et c'est vrai que quand j'entends parler certains de nos femmes et hommes politiques, surtout les hommes d'ailleurs, oh, les femmes aussi, certaines d'entre elles qui sont au gouvernement ou autres d'ailleurs, mais je dis, mais putain, mais c'est ça que tu es en train d'articuler, c'est ça ta pensée, c'est ça, c'est-à-dire que c'est une non-pensée en fait, c'est juste de la peur, quoi, de la manipulation, et pensant que les gens du peuple pensent comme ça, enfin, la majorité du peuple français pense comme ça, alors on va dire, non, mais parce que... Ça fait beaucoup de pognon, quoi. Et c'est parce que tu as dit le mot pognon que tu vas nous... Et c'est ça qui m'agace en ce moment. Et c'est pour ça que quand vous prenez Pagnol, par exemple, moi, j'ai pas la velléité de faire ce que faisait Pagnol, qui était un grand érudit et un...
Grand helléniste.
Et un grand helléniste aussi. De faire ça. Mais le type, il a dit, tiens, ben voilà, je vais déployer une langue. Et par la langue, je vais raconter un monde. Je vais déployer une pensée, je vais raconter un monde. Et or, aujourd'hui, on doit rétablir les mondes. Ce n'est pas le monde, c'est il y a des mondes qui cohabitent et qui s'expriment. Mais bon, en plus, moi, j'étais chez les jésuites, donc la langue, j'étais à bonne école, quoi. Très vite, je savais qui était Hugo, je savais qui était Musset. J'ai fait du grec, j'ai fait du latin, même si j'ai oublié la grande partie de ce que j'ai appris, mais... C'est la construction mentale des enfants qu'on donne à l'école, c'est-à-dire de construire, de choisir chaque fantassin, chaque soldat, chaque général qui va constituer la phrase, qui va constituer le texte et qui va en faire quelque chose de tellement construit que c'est pas aplatissable ou contournable, quoi. Et je pense que la langue, c'est important pour ça, et l'endroit idéal pour la redéployer, la langue, ben, c'est le théâtre. Encore, c'est encore le théâtre. C'est, même au cinéma, on ne peut plus faire ça. On ne peut plus dire, parce que c'est Cristiano, Ariane fait beaucoup de films, moi j'en ai fait un petit peu aussi. Et c'est vrai que j'écris des scénarios, elle a écrit, elle a réalisé, Ariane aussi, mais tu donnes des scénarios à des gens, ils te disent, ouais, mais c'est trop bavard. comment je fais pour dire, si j'ai pas le droit de parler, à part dire à quelle heure penses-tu qu'il va arriver? Elle était planquée derrière la voiture. Hein. Et tu te dis, bon, c'est bon, on peut raconter la vie autrement. Et moi, je pense que, bon, parce que c'est une industrie, le cinéma. Et je pense que quand on est là, il est très heureux que la salle soit pleine. Mais le théâtre, on peut faire du théâtre qui soit un beau moment à passer, tout en distillant deux, trois idées à l'intérieur de ça pour raconter le monde. On peut s'amuser. Il peut y avoir des combats, il peut y avoir des scènes d'escrime, il peut y avoir des scènes d'amour, etc. Mais à l'intérieur de ça, on peut dire le monde, on peut raconter le monde. Et faire que le théâtre soit plein, donc, et faire que l'argent circule. On ne gagne pas l'argent. L'argent, ça ne se gagne pas. L'argent, on le fait circuler. Et en ce moment, il circule par pas beaucoup de poches. Quoi. C'est 12 poches qui circulent. De l'argent sort d'une poche à l'autre. Et toi, tu fais ça, tu fais... On m'a dit qu'il y en a... Ah, il y en a, mais... Ah, mais il est parti. Et je pense que... moi, je n'ai pas peur de dire que l'argent est un facteur important pour faire du théâtre. C'est important. Même si nous tous qui sommes là à faire le théâtre, que ce soit dans la position d'Antoine, celle d'Ariane ou la mienne, toutes les filles et les garçons qui sont là sur le plateau, les techniciens, les techniciennes qui travaillent ici, on a épousé quelque part l'idée de la précarité. On l'a épousé, on l'a compris. L'idée de se mettre en danger financièrement. Mais le fait que ce soit une passion fait que après derrière, il y a toutes les constructions de l'État, et tant mieux, toutes les structures, et tant mieux, le ministère de la Culture qui est encore là, et tant mieux, mais même si, je ne veux pas dire ça, parce qu'après les gens ils disent, ah ben oui, tu l'as dit, même si ça n'existe pas, nous continuerions de le faire.
Ah, pas sûr, moi.
Vous aurez compris l'importance accordée au texte, aux idées et à la transmission, et elle est primordiale dans le théâtre d'Apcarian. On en recose un petit peu, on évoque les nouveaux codes du théâtre, son universalité dévoyée et l'éducation populaire.
Moi, ce qui m'inspire et ce qui me nourrit, c'est aussi cette permissivité. C'est dire j'ai le droit de faire ça. Parce que aujourd'hui, vous faites du théâtre comme ça, je dis ouais, mais putain, il parle trop fort. Ouais, non, mais il y a trop de textes. Ouais, mais ils disent des gros mots. Ouais, mais tu peux plus rien faire. Et puis tu fais du théâtre, à un moment donné, tu te fais chier, quoi. Moi, il y a du théâtre, tu vois, tu dis, ouais, ok, d'accord, j'ai compris, la vidéo, c'est top, la peinture qui défile, c'est super, les acteurs qui bougent pas, les micros, et à un moment donné, tu te fais chier, quoi. Et je dis pas, je suis pas un poujadiste de l'art dramatique, hein. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas expérimenter, il faut expérimenter. Et c'est vrai que ces 10 dernières années, le texte a été un peu banni des scènes théâtrales françaises. Et je pense que le théâtre sans le texte, c'est comme un printemps sans fleurs, quoi. Il faut le texte. Moi, je suis un fervent défendeur du texte. Après, il y a des gens qui vont t'expliquer par A plus B que le texte est fini. Bon, très bien, il y a des très belles choses qui se font sans texte, mais il ne faut pas le bannir, le texte. Je ne dis pas qu'il faut absolument faire du texte. Il y a des formes théâtrales qui sont splendides, qui sont physiques, qui sont poétiques, qui sont circassiennes, qui sont etc., etc. Mais le théâtre, ce n'est pas un endroit où on fait des putains de happenings. Les happenings, on les fait sur les Champs-Élysées, sous la grande barrière de... Mais ce n'est pas un endroit pour faire des happenings. Ce n'est pas un endroit où on se prend le pot de peinture, on se le verse sur la tête en disant des poèmes de Baudelaire. Non. En chantant du Barbara derrière. Non. Ça n'a pas été construit pour ça. Alors, des gens qui vont te dire, qui sont des directeurs du Festival d'automne ou autre, qui vont te dire, mais tu comprends que ça, c'est un peu has-been. Mais c'est toi qui l'as décidé, les gens ils ont envie d'entendre du texte, ils ont envie d'entendre des mots résonner dans leur tête. Moi, c'est comme ça que je le prends.
Le problème est que je crois que le théâtre aujourd'hui, dans une certaine mesure, a été kidnappé par une certaine classe sociale.
Et que, laquelle, dis-le, laquelle.
Et que, effectivement, ils font un théâtre dans lequel cette classe sociale peut se reconnaître. C'est-à-dire que donc, les spectateurs qui vont venir, ils auront les éléments pour reconnaître ce qui est raconté. Et en fait, le théâtre, c'est pas vraiment ça. Le théâtre, c'est fait pour parler à tout le monde. Le théâtre, c'est quelque chose qui est universel. Or, cette notion d'universalité est un peu en train de disparaître. Chaque fois qu'on a joué ces spectacles, c'est même la première fois qu'on a joué le dernier jour du jeûne, moi-même, j'ai été, je dis pas ça pour vous mettre dans l'ambiance, mais j'ai été très étonnée. C'est-à-dire qu'on est arrivé avec un texte très écrit. Alors évidemment, il y a des tas de situations qui se passent, mais à la fin, Moi, je me rappelle, on a créé ça à Marseille. J'avais invité des amis à moi, des gens qui n'allaient pas au théâtre. Et à la fin du spectacle, ces gens étaient debout. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'était vraiment très, très, très touchant, très, comment dirais-je, enthousiasmant pour nous. Parce que d'un coup, il y avait une relation juste entre le spectateur et ce qui était en train de se dire et faire sur le plateau. C'est aujourd'hui cette notion d'universalisme qui, à mon sens, disparaît beaucoup et qui, effectivement, donc on fait... c'est comme, vous savez, la FIAC, quoi, aujourd'hui, en art moderne, quoi. Donc on va à la FIAC, on voit une banane épinglée contre un mur, on dit ça coûte 3 500 000, tout le monde dit... Ah, elle est belle, cette banane. Tu rentres chez toi, la banane, tu l'as dans la corbeille de fruits.
Tu dis, je croyais que tu allais dire autre chose.
Non. Tu te dis, je vais manger 3 500 000, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où ça perd l'esprit de réalité, de se demander pourquoi on fait de l'art, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça veut dire. La question ne se pose plus, c'est-à-dire que ce sont des gens qui se parlent entre eux et c'est tout dans un tout petit cercle. Si vous allez au théâtre aujourd'hui, moi je ne rêve que d'une chose dans les théâtres, c'est de voir des jeunes gens. J'en vois pas beaucoup. Quand on arrive à les emmener, ils sont très très contents quand ils viennent voir ce spectacle-là. Mais c'est presque comme si toute une partie de la population avait assimilé qu'au fond, le théâtre, ce n'est pas pour eux. Et c'est ça qui est grave. C'est-à-dire donc, il n'y a plus d'éducation populaire. Parce que le théâtre, ça fait partie de l'éducation populaire, tout simplement.
Et c'est... Le théâtre public, c'est un service public, quoi. C'est le théâtre public. C'est-à-dire que nous, on nous donne les deniers des Français pour le leur rendre sous cette forme-là.
Enfin, oui, mais la fracture qu'il y a là, parce que nous, les gens des quartiers, entre guillemets, ou les classes sociales les moins aisées, aujourd'hui, elles ne vont plus au théâtre. Et je ne sais pas si quelque chose ou quelqu'un un jour fera que ces gens-là oseront retourner dans un théâtre.
Mais bien sûr, c'est comme... Mais c'est d'accord. Après, je vais vous dire, il y a deux choses. Il y a effectivement qui se pensent pas autorisés à entrer dans un théâtre, un opéra, un musée. Ils se pensent encore autorisés à aller au cinéma. Et encore, au cinéma, ils vont voir des choses bien précises. À nous de parler au pouvoir public pour mettre en branle tout un véritable travail pour faire de l'éducation, même à l'intérieur de l'école, pour donner l'envie à ces jeunes gens de venir au théâtre et surtout de leur dire qu'ils ont le droit de venir au théâtre. C'est tellement fort, l'idéologie est tellement forte qu'ils ont complètement assimilé que ce n'est pas pour eux. C'est là où c'est fort. Et après... Moi, je dis toujours que le spectateur a aussi une responsabilité. Il faut se bouger le cul un peu. Vous voyez ? Il faut pas simplement attendre. On a tellement mis dans la tête aux gens qu'ils devaient être assistés. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas assister des gens. Mais ça veut dire aussi que, dans une certaine manière, à partir du moment où ils sont assistés, ils ne prennent plus d'initiative. Or, l'initiative, c'est le propre de l'humanité. Donc, il faut aussi parler de ça... Quand on fait des rencontres, quand on fait des choses comme ça, il faut dire aux gens, mais vous devez vous dire à un moment donné, mais je pousse la porte et je rentre, quoi. Mais c'est vrai que c'est difficile. C'est vraiment difficile. Moi, j'ai mis des années à entrer à l'opéra. Et encore, quand j'y rentre, encore, à part l'opéra de Marseille, parce que c'est un truc tellement particulier, quand je rentre à l'opéra Bastille... Je rentre en terre inconnue.
Nous étions donc avec Ariane Ascaride et Simon Abkarian, qui sont en résidence avec la compagnie des Cinq Roues depuis dimanche dernier au théâtre de Gascogne. Avec Ariane Ascaride, justement, nous avons évoqué forcément son discours prononcé à la Mostra de Venise cet été. Lauréate de la Coupe Volpi de la meilleure interprète féminine, elle a dédié son prix à tous ceux qui reposent au fond de la Méditerranée.
Peut-être que j'ai été élevée dans des valeurs qui font qu'il y a des choses que je ne peux pas supporter. Tout simplement, que je viens d'un milieu très populaire, que c'est pour ça aussi que j'ai énormément de plaisir à jouer ce spectacle, parce que comment vous dire, quand je joue Nouritsa, il y a ma mère, ma grand-mère qui m'accompagne, qui marche à côté de moi. Et que c'est un... C'est une manière... Je suis... Voilà, je préférerais dire que je suis quelqu'un de mémoire. J'ai une mémoire extrêmement développée. Et... Voilà, j'ai dans ma tête des images, des comportements, des humiliations qu'ont vécu ma mère ou ma grand-mère. Et que si moi j'ai pu me sortir de là, changer de classe, c'est la moindre des choses que je pars. Juste ça, c'est la moindre des choses. Et donc je choisis mes rôles. C'est-à-dire que... Quand on tourne avec Guédiguian, effectivement, je ne sais combien de fois j'ai tourné un personnage qui frotte par terre. Et puis après, je vais jouer avec Capcarian et puis je frotte encore par terre. Ça me poursuit, vous voyez. Je manie extrêmement bien la pièce à frotter.
La serpillière.
Voilà. Mais voilà, ça ne me dérange pas. Et
parce que tu te lèves après, c'est ça qui est beau.
Ouais, bah heureusement que je me lève, ça quatre pattes tout le temps, ça va être fatigant. Mais non, en fait, j'ai toujours... C'était très long avant que je sois connue, avant que je puisse avoir une certaine aisance de choix ou de vie. Avant Marius, il y a 7 films, d'accord ? Donc, c'est des films faits avec des bouts de ficelle... Et avec, comme le spectacle qui se fait là, comme avec une volonté de la part des techniciens et des acteurs de raconter ces histoires-là. Donc, j'ai toujours aimé entrer dans des aventures qui racontaient un monde qui n'était pas obligatoirement le monde le plus éclairé. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a effectivement plus de jeunes réalisateurs, de jeunes réalisatrices. Enfin, en tout cas, je parle des Misérables, par exemple. D'un coup, voilà, on entend un autre monde, tout le monde se jette dessus, et tant mieux, un peu par mode, un peu par exotisme, je dirais. Il y a dans le public qui va voir Les Misérables, il y a une partie qui est exotique, il y a une autre partie qui vient se voir, et qui est extrêmement rassérénée de voir ça. Et voilà, donc moi j'ai toujours essayé de travailler comme ça, mais vous savez, mon rêve fou c'est de jouer une aristocrate. Mais j'y arriverai.
Suite à la conférence de presse et grâce à Clémentine du Théâtre de Gascogne, que je remercie à nouveau, j'ai eu droit à mon entretien en tête-à-tête avec Ariane Ascaride. Est-ce que vous pouvez me parler du personnage Vous viendrez voir la semaine prochaine. Bon, allez-y. De Nouritsa.
Nouritsa, c'est, si vous voulez, une... Enfin, c'est pas si vous voulez, c'est une mère, c'est presque l'esprit maternel concrétisé, quoi, dans une personne. C'est une femme, avant tout. C'est une femme, et comme dans beaucoup de familles méditerranéennes, vous savez que les femmes ont une place très, très importante. Et encore, je dis dans les familles méditerranéennes, mais je pourrais dire dans toutes les familles. La mère est un pivot autour duquel tout tourne. C'est elle, à l'intérieur de la famille, qui règle tout. C'est une femme... quand le spectacle commence, c'est une mère en pleine forme, qui est très... comment dire ? Très sensuelle, vivante... un peu autoritaire, et en même temps, elle a un truc, elle est née 7 jours avant les muses, donc elle a un petit côté sorcière, voilà, comme beaucoup de mères. Je dirais ça comme ça.
Et Simon disait juste avant que ce personnage, ce rôle, il l'avait écrit pour vous, en pensant à vous. En quoi il vous ressemble, en quoi vous vous retrouvez dans ce
personnage ? Je suis une sorcière. Je suis juste une sorcière. Non, je viens de ce monde-là. Les femmes dans le milieu où je suis née sont des femmes fortes, très fortes, et qui pallient la plupart du temps à toutes les catastrophes qui arrivent à l'intérieur de la famille, qui prennent l'angoisse de tous les enfants, qui la prennent, qui la plient, qui la mettent dans leur poche et qui essayent d'apaiser leurs enfants et qui se prennent les angoisses elles-mêmes et qui essayent de se débrouiller toutes seules avec ces angoisses, d'ailleurs.
peut-être que je suis un peu comme ça. On va dire, on va dire peut-être ça comme ça. Je suis l'héritière de... En tout cas, je suis l'héritière de ces femmes-là. Ça comme ça, ouais.
Et quand vous dites sorcière, c'est sorcière comme on l'entend aujourd'hui, avec le renouveau de l'image de la sorcière qu'on voit, ou c'est sorcière
Mona Chollet, vous voulez dire? Non, d'ailleurs, je fais des lectures de sorcières de Mona Chollet avec d'autres jeunes actrices et des jeunes femmes qui font de la musique. Et c'est étonnant d'ailleurs comment le livre de Mona Chollet résonne chez les femmes, c'est absolument génial. Elle est sorcière. Non, elle sait les choses avant tout le monde. Elle peut débloquer quelqu'un. Elle peut débloquer quelqu'un qui, par exemple, ne parle plus. Elle va le débloquer. Je ne vous en dis pas plus, parce que sinon, je vous raconte le spectacle.
Et vous, en tant que
Moi,
sorcière ?
Je suis napolitaine. Et dans la culture napolitaine, la superstition est une chose très, très présente. Et j'ai été élevée avec ça. Je ne sais pas si je suis une véritable sorcière, mais je suis quelqu'un qui vit avec la superstition, oui.
Simon dit souvent que tout est politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est comme ça aussi que vous faites du théâtre?
Absolument, tout est politique. Tout le temps. Tout le temps. Même des choses auxquelles vous apercevez même pas de ça. Tout est politique. À partir du moment où vous venez au monde, vous allez naître dans un milieu, et si vous naissez dans un milieu bourgeois, vous allez avoir beaucoup plus de facilité pour pouvoir faire des études, pour pouvoir faire de la musique. Exemple simple, quand vous allez dans un conservatoire de musique, demandez à tous les enfants qu'est-ce que font leurs parents. La plupart du temps, ils sont professeurs ou musiciens. Il n'y en a pas beaucoup qui sont fils de maçons. Parce que c'est difficile. Parce que quand vous êtes fils de maçon, c'est pas que vous pourriez pas être un bon musicien, mais quand vous êtes un enfant, quand vous rentrez à la maison, vous essayez de parler de ce que vous avez fait en cours, du solfège. Et vos parents, le solfège, ils savent pas ce que c'est. Ou peut-être même vos parents, ils ne parlent pas la même langue. Donc si vous voulez, effectivement, la République, la res publica, c'est-à-dire la chose commune, devrait mettre en place des choses qui puissent donner les mêmes possibilités à tous les enfants. Or, ce n'est pas ce qui se passe. Donc, c'est une volonté politique de mettre en place une certaine société. Et s'il y a des avancées qui se font, ça a toujours été des avancées qui se sont faites parce qu'il y a eu revendication. Rien ne vous est donné, jamais. Et par exemple, ce qui se passe en ce moment, où on essaye de déchirer les pauvres entre eux, parce que c'est de ça dont on parle avec cette grève, eh bien, c'est parce qu'il y a des gens qui font la grève, que peut-être on va, je dis bien peut-être, parce que je n'en suis pas sûre, on va peut-être arriver à quelque chose. Mais sincèrement, je n'en suis pas sûre. Mais par contre, ce qu'on fait très bien, c'est que les pauvres peuvent se disputer entre eux, et que pendant qu'ils se disputent, eh bien, on fait passer des lois.
Est-ce que vous avez Gloria Mundi en fond quand vous me parlez de ça?
Oui, bien, enfin, c'est pas Gloria Mundi, c'est que nous avons travaillé depuis des années qu'on travaille comme ça, quoi. Vous voyez? Et Gloria Mundi, c'est la première fois dans un film où je joue une anti-gréviste. Et c'était assez étonnant à faire. Et tout le monde m'a parlé de ça, me disait, mais c'est pas normal, ça m'a fait un drôle d'effet que tu joues quelqu'un qui ne veuille pas faire la grève. Mais si cette femme ne fait pas la grève, c'est parce qu'il faut qu'elle puisse aider ses enfants. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ne font pas la grève, pas parce qu'ils ne veulent pas la faire, mais parce que sinon, ils ne peuvent pas s'en sortir. Donc, il faut rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire que ceux qui peuvent faire la grève font la grève pour beaucoup d'autres. Et il faut leur en être véritablement reconnaissant. Parce que c'est pas facile de faire la grève. Moi, j'ai fait un film il y a quelques années avec ceux qui avaient fait la grève de la SNCF en 95. Et donc, il y avait des mecs de la SNCF qui me racontaient, quand vous faites la grève, vous perdez de l'argent, vous perdez votre maison parce que vous n'arrivez plus à payer le crédit, vous perdez votre femme souvent. Toute votre vie change. Et c'est ça qu'on raconte pas. C'est très courageux de faire une grève. C'est pas de la rigolade du tout.
Et donc le théâtre et le cinéma, ça vous permet de faire passer ces messages-là?
Avant tout, ça me permet de jouer des textes qui m'intéressent. Ça me permet de pouvoir interpréter et de donner chair et os à des personnages de papier, puisque c'est des personnages qui sont écrits, qui n'existent pas, et de chercher d'arriver à rendre ces personnages évidents. Mon but à moi, c'est que quand vous voyez ce que je fais, vous ne vous disiez pas « Ah, machine aurait pu le faire aussi ». Non, ça peut être que ce personnage-là, il est comme ça. C'est ça mon intérêt, vous voyez ? Et c'est vrai que... C'est-à-dire, le monde populaire n'a pas beaucoup de place et n'a pas beaucoup la parole. Donc quand on peut la lui donner, il faut la prendre. Voilà. En toute modestie, je dirais ça comme ça. Mais justement, avec toute la dignité du monde populaire. Car le monde populaire est un monde très, très, très digne, avec des grandes valeurs, des grandes vertus. Mais on ne parle pas de ça parce que, si vous voulez, nous sommes arrivés dans un temps, à travers les médias et particulièrement à travers la télévision, où le monde populaire arrive à s'auto-caricaturer. Et c'est ça qui est grave.
Vous faites du théâtre, vous faites du cinéma. Qu'est-ce que le théâtre autorise que le cinéma n'autorise pas ? Et qu'est-ce que le cinéma autorise que le théâtre n'autorise pas ?
Alors la première chose, ce qui est absolument extraordinaire avec le théâtre, c'est ce rapport direct avec le public. C'est cet échange-là. C'est-à-dire ça se passe dans l'instant. Il y a quelque chose de momentané. Ce qui ne se passe pas avec le cinéma. Quand vous voyez un film, moi ça fait 9 mois ou 1 an que je l'ai fait. Donc la manière dont vous le recevez, moi je suis déjà loin de ça. Ça me fait très plaisir, mais je suis loin. Le théâtre, d'abord c'est beaucoup plus dangereux. Et j'aime un peu ça, je dois le dire. J'aime un peu le danger. Ouais. Enfin, j'aime bien ce qu'on me dit toujours. Moi je dis toujours, vous savez... Quand vous mettez un pied sur un plateau ou quand vous allez tourner, quand vous entendez moteur, c'est comme le saut à l'élastique, quoi. Vous vous jetez. Moi, je ne sais pas ce que je vais... Pas au théâtre, mais au cinéma. Je ne sais pas une seconde avant qu'on dise moteur ce que je vais faire exactement. Et c'est ça qui me plaît, d'ailleurs. Au théâtre, ce n'est pas pareil parce qu'on a répété, mais le spectacle n'est jamais, jamais, jamais le même parce que tous les soirs, le public change et que le spectacle, il se fait avec le public. C'est ça qui me plaît beaucoup, ce que je n'ai pas au cinéma, même si l'équipe de techniciens, c'est un petit peu un public, puisqu'ils nous regardent jouer, mais c'est pas pareil. Voilà.
Parfait.
Ça vous va ?
Ça me va, j'ai...
Des milliers de questions.
Mais évidemment, rien. Merci beaucoup, en tout cas.
Je vous en prie.